15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. Comment, pour ne plus souffrir, se suicider autrement qu'en mourant ? Eh bien, cette question est un pur matériau d'écrivain et justement, j'en reçois un pour qui chaque rupture tragiquement définitive est la promesse d'un chef-d'œuvre de douleur à mettre en mots. Le livre a pour titre « Rompre », il paraît chez Grasset et son auteur est Yann Moix.
Europe 1.
Bonjour.
Bonjour.
Yann Moix, il y a peu de temps, vous avez déclaré « Avec tout ce qui m'arrive, je suis le dernier punk au monde et le premier punk de France. » La morale n'a jamais produit de littérature, n'est-ce pas ?
Non, enfin, je vais retirer le mot punk, écrivain suffit. On attend toujours des gens qui disent des choses qui rentrent en résonance avec l'éthique ou la morale du moment. La morale du moment, je n'en ai absolument que faire. Si je provoque, si je choque, si je dérange, tant mieux. Je ne cherche pas ça. Simplement, le fait de dire ce qu'on pense, parfois, le déclenche mécaniquement. Tant pis pour l'époque. J'assume 100% de ce que je dis en général, sauf quand je dis des grosses bêtises, ce qui peut m'arriver également. Mais je n'ai pas peur de dire des choses qui ne sont pas audibles. Je m'en fiche. Royalement, ce n'est pas mon problème. C'est le problème de la société, mais pas le mien.
Ça me va très bien. Alors, en même temps, j'entends bien votre réponse, mais en même temps, vous qui êtes un écrivain plusieurs fois primé, le prix Renaudot, le prix François Mauriac, le Goncourt du premier roman, on a le sentiment qu'appuyer sur le buzzer de la provocation vous apporte une jouissance singulière, délicieusement masochiste, alors que votre prose se suffit elle-même pour vous promettre la postérité.
C'est pas une jouissance, c'est une forme de consécration. Heureusement qu'on me crache dessus, c'est une forme de bénédiction pour un écrivain que d'être humilié, vilipendé, harcelé, insulté. Dans une époque où effectivement les mots deviennent rares dans leur résonance, où la nuance est morte, où les littératures ne semblent plus rien vouloir dire, je répète que l'écrivain est là non pas pour faire de la provocation et appuyer sur un buzzer, mais il est là pour créer une distance entre la vérité, la vraie, celle qui n'a pas de conditions, et la pseudo-vérité qu'on nous insuffle toute la journée, qui consiste à dire des choses en fonction de ce que vont en penser les autres, et à slalomer entre les gouttes d'eau de la bien-pensance ou de la morale, pour éviter de mourir socialement. Car nous vivons dans une société où les gens ont peur. Tout le monde a peur.
Pour sauf
sa peau,
vous.
Pour sa... Moi, j'ai pas peur du tout, mais alors de rien du tout. Sauf évidemment de la rupture.
Voilà.
Mais je n'ai pas peur pour ma réputation, je n'ai pas peur de finir SDF, j'ai peur de rien du tout, mais ça m'est totalement indifférent.
Vous êtes au cœur de presque tous vos romans, Yann Moix. Il n'y a pas d'écrivain sans une hypertrophie du moi.
Oui, alors ça, c'est vrai jusqu'à maintenant. Et pourtant, là, j'ai commencé une saga qui va comporter une dizaine de tomes sur le 21e siècle, dans lequel je n'apparaîtrai pas une seule fraction de seconde. Donc, oui, pour l'instant, vous avez raison.
Bon, vous me pardonnerez de dire ça, mais hypertrophie de l'ego, ça tombe bien finalement de s'appeler Moix.
Oui, en même temps, le X est un accès vers l'anonymat le plus total. Ça commence par de l'égocentrisme, mais ça se termine dans l'anonymat.
Bon, Yann Moix, votre nouveau roman a pour titre « Rompre ». Quelle est la part de l'amour de soi dans l'amour de l'autre ?
Il est possible qu'on mette dans l'autre précisément la haine qu'on a pour soi-même. C'est-à-dire qu'on injecte une sorte de venin dans la psychologie de la personne aimée, qui ne le regarde en rien, c'est-à-dire qu'on construit à partir de la personne aimée un espèce de canevas fictif qui n'est que le réceptacle de toutes nos névroses, de nos angoisses, de notre enfance. Et finalement, le monstre que nous sommes nous-mêmes crée un avatar qui devient la personne aimée. Et cette personne est totalement fictive, elle est fantasmée. Et ceux qui ont accès à la personne réelle, quand ils sont avec quelqu'un, sont des gens qu'il faudrait saluer, qu'il faudrait connaître, et qu'il faudrait célébrer, et qu'il faudrait peut-être sanctifier.
En 2013, votre roman Naissance ouvrait sur de faux articles accueillant ce livre. En 2019, votre nouveau roman Rompre ouvre également sur un faux avertissement qui est déjà de la littérature et qui nous explique que vous, Gaspard Lenoir, avez décidé avec Olivier Nora, le vrai directeur des éditions Grasset, de publier les confidences que vous avez faites à personnage médiatique qu'on imagine tout de suite être vous, bien sûr, sur l'enfer dont il vit au travers d'une rupture. Pourquoi ce paravent littéraire avant d'écrire ses confidences à la première personne ?
Le film, la fine pellicule de film qui me sépare de la vérité pure et dure, c'est le mot roman. Ce petit filtre, cette petite invention d'un journaliste qui me pose des questions, est la seule chose qui me sépare des radiations de la réalité. si j'enlève le mot roman, le livre tient toujours, mais c'est moi à 100%. Si je mets le mot roman, c'est moi à 99,9% et les 0,1% qui restent me donnent une sorte de paix, m'offrent une sorte de sérénité dans laquelle je peux me réfugier, comme une alvéole. C'est le 0,1% qui assure, si vous voulez, ma tranquillité presque hygiénique.
C'est en compagnie de Yann Moix qu'on va se balader cet après-midi. On fait une très courte pause. On se retrouve tout de suite.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit jusqu'à 16h avec Isabelle Morizet et son invité Yann Moix.
Yann Moix fait paraître chez Grasset Rompre. Il est cet après-midi mon invité. Alors Yann Moix, une fois passé l'avertissement qui est un procédé littéraire habile à la première page du roman, je tombe sur cette phrase qui est vraiment faite pour être annotée. Ce qui fait du mal dans une rupture, ce n'est pas l'absence d'une présence, mais la présence d'une absence. C'est un petit côté Guitry, hein ?
Oui, l'autre n'est jamais autant là que lorsqu'il n'est plus là. C'est-à-dire que tout est contaminé par le fait qu'il a été et qu'il n'est plus. Les livres, les meubles, les endroits, les lieux, les musiques, les sentiments, les saisons, la température, le soleil et la pluie sont d'une certaine manière de sa création. Il véhicule perpétuellement son souvenir. Voilà. Tout fait écho à tout et on est renvoyé infiniment à l'autre. Quand on est avec l'autre, en sa présence, on ne pense pas à lui tout le temps. On pense à lui presque même jamais. On peut faire enfin autre chose. On peut penser à quelque chose d'autre que l'autre. Mais quand l'autre n'est plus là, eh bien, tout l'espace est rempli de son souvenir et il est là sans cesse et sans arrêt. Il n'a jamais été autant là que depuis qu'il a fui l'endroit où nous restons seuls parmi les souvenirs et les objets qui nous crachent au visage toute la journée pour nous rappeler à quel point nous avons eu tort de préférer la solitude à sa présence.
Alors, j'évoquais à l'instant Guitry, Sacha Guitry clamait « Je vais donc enfin vivre seul et je me demande avec qui ?» En fait, l'enfer, ce n'est pas l'absence définitive de l'être aimé, c'est d'être en couple avec soi-même dans la solitude de soi.
Effectivement, quand on est en couple, on a souvent envie de respirer. On pense que c'est une entité, le couple, qui est asphyxiante et on rêve d'être seul. Et puis, quand on se retrouve mécaniquement, techniquement seul, on s'aperçoit que autant il est facile, quand on est deux, d'aller se reposer dans la solitude quelques jours, autant il est impossible, quand on est un, de se retrouver à deux en claquant des doigts. Et c'est la grande illusion, quand on est à deux, de penser qu'on serait mieux seul. Car une fois plongé dans la solitude irrémédiable, seul le chagrin et les souvenirs nous permettent d'expérimenter l'existence. Alors que lorsqu'on est deux, on peut partager le monde, on peut voyager, on peut faire l'amour, on peut construire des souvenirs. Et comme disait Sacha Guitry, il avait écrit une très belle lettre à Jacqueline de Lubac. Il avait offert un petit diamant et un petit mot à côté. Et il avait écrit « à nos futurs souvenirs ». C'est-à-dire qu'il avait anticipé que la relation se terminerait un jour, mais qu'en attendant, il fallait en fabriquer. Et
mais
le narrateur n'a même pas eu le temps de fabriquer de souvenirs.
Vous êtes en train de nous dire que finalement, l'expérimentation du monde ne passe que par le partage.
Oui, je crois. Partager le monde, c'est la chose la plus belle qui soit. Voyager seul est quelque chose, je le fais beaucoup, de âpre, de difficile, de fatigant, parfois de démoralisant. Se retrouver dans les plus belles villes du monde, seul avec soi-même, enfermé dans sa propre singularité, est quelque chose de beaucoup plus étouffant et d'asphyxiant. Asphyxiant, c'est rigolo, que de
fiction.
Partager, d'être deux.
Alors, Yann Moix, ce livre charrie votre douleur abyssale de ne plus être aimé de la femme que vous aimez, mais c'est vous qui êtes parti, juste pour une phrase qu'elle a osé prononcer. Il y a donc en vous quelque chose qui vous pousse, j'ai envie de dire, à faire le malin en fabriquant du suicide.
Oui,
chaque fois.
Oui, faire
puisque
le malin.
Puisque ça se, en fait, passe toujours de la même manière.
Oui, vous dites très bien les choses. Faire le malin, dans le malin, il y a le diable. Il y a quelque chose de diabolique et de maléfique qui se déploie comme un monstre en moi et qui sécrète, prépare, façonne, produit de la rupture dans les moments d'extase absolue, dans les moments de tranquillité, de sérénité, de bonheur. Quelque chose commence à ronger. Une petite musique terrible m'annonce que je vais commencer à fabriquer de l'irréversible et à produire des déchets à partir de ce qu'il y a de plus beau au monde, c'est-à-dire de l'amour.
Oui, mais à partir de quand vous l'entendez, cette petite musique funeste?
J'essaye de la chasser, de l'expier, de la ranger dans son fourreau et je m'aperçois qu'elle est toujours là, lancinante, insinueuse et qu'elle vient taper à ma porte jour et nuit et qu'elle attend en fait une sortie possible. Les sorties en général, c'est le prétexte pour déclencher une colère, pour trouver un moyen de s'énerver. Ou, par exemple, la susceptibilité. Par la porte de la susceptibilité, on peut laisser entrer le monstre, et une fois qu'il a pris possession de vous, il crée quelque chose d'implacable, c'est-à-dire une situation irréversible où la personne avec laquelle vous êtes et que vous aimez se sent tellement esselée, abandonnée, humiliée, insultée, que même si elle vous aime encore, sa raison et son orgueil lui susurreront de ne pas faire deux fois la même erreur.
Alors, vous écrivez donc, Yann Moix, « Avec moi, la menace que tout se termine dans la journée plane sans cesse. Je produis de l'intranquillité à flux tendu. La rupture est la seule continuité possible de ce que je suis. Délesté de la personne aimée, je peux enfin me vouer au martyr. » Alors parlons-en du martyr. Comme pour ces pénitents qui se flagellent, le plaisir à souffrir est donc pour vous si grand ?
Je crois que tous les êtres humains ont besoin d'une dose de souffrance. C'est ce qu'on appelle l'instinct ou la pulsion de mort. Que certaines personnes s'auto-flagellent ou opèrent sur eux des scarifications. Certains se piquent, certains boivent. Moi, ma manière de me maltraiter, si j'ose dire, c'est effectivement de sécréter ces ruptures qui me mettent à terre à chaque fois. Et je vois très bien ce que je fais en le faisant. J'obtiens enfin la dose de souffrance dont je pense qu'elle m'est dévolue jusqu'à ma mort et qui, manifestement, m'est nécessaire pour continuer à être. C'est terrible, c'est un cercle vicieux dont j'ai essayé de sortir à plusieurs reprises, notamment grâce à la psychanalyse. Ça ne marche pas, il y a d'autres choses qui marchent dans l'analyse, mais ça, sur moi, ça ne marche pas. Le monstre s'est montré, pour l'instant, beaucoup plus fort que toutes les personnes intelligentes que j'ai croisées et qui ont tenté de le mater.
Oui, mais le monstre vous fait écrire des livres. Alors, il y a quand même une chose qui m'intrigue et qui concerne la belle qui vous met au supplice en vous ayant rayé de sa vie. Comment passe-t-on, comment passe-t-elle d'un écrivain à un prof de yoga?
J'ai beaucoup de mépris pour, pas simplement les professeurs de yoga, pour tous ceux qui font commerce du bien-être en général. Beaucoup de mépris. Je sais bien que dans le lot, il y a des gens tout à fait convenables, honnêtes et fréquentables. Mais dans leur majorité, ces gens qui sont un mélange de théoriciens, de gourous, de dialecticiens, du grand écart et du quinoa obligatoire, essayent, par un charlatanisme assez poussé, de remplir les femmes de ce qu'elles ont de plus cher au monde, c'est-à-dire d'elles-mêmes. Et donc de leur octroyer la confiance qu'une relation précédente leur a peut-être arrachée, ou en tout cas brisée. Et ces gens-là, repérant immédiatement la faille, comme tous les pervers d'ailleurs, font leur nid dans les cicatrices, parmi les ecchymoses, et essayent de construire sur des principes de vie plus que douteux, un avenir atroce. Et je compte sur l'intelligence de toutes les femmes qui nous écoutent pour savoir que parmi les profs de yoga qui les rassurent en ce moment, la part du calculateur, la part du profiteur et la part du manipulateur est bien supérieure à la part du gymnaste.
Alors pourquoi ne vous revient-elle pas ?
Parce que je considère que je ne suis pas suffisamment intelligent pour qu'on puisse rester avec moi, pas suffisamment peut-être drôle, pas suffisamment rassurant, pas suffisamment intéressant. Et qu'il est possible, vous voyez que je suis ouvert à toutes les hypothèses, que cet homme soit plus intéressant que moi.
Cet homme est juste passionnant. Je reçois Yann Moix cet après-midi. On fait une pause très courte. On le retrouve tout de suite.
Dans son nouveau livre paru chez Grasset, il autopsie la rupture amoureuse. Écrivain et homme de télévision, il est l'invité d'Isabelle Morizet et il se raconte jusqu'à 16h sur Europe 1.
C'est en compagnie de l'écrivain Yann Moix qu'on chemine cet après-midi. Yann Moix. Tous ceux qui ont lu Panthéon, sorti chez Grasset en 2006, et Naissance, paru chez le même éditeur en 2013 et couronné d'ailleurs du prix Renaudot, eh bien, ceux-là savent qu'avant de devenir l'enfant terrible des lettres françaises, vous étiez un enfant martyr, au sens étymologique du terme, avec des parents qui manifestaient une imagination inépuisable pour les sévices. Or, dans Rompre, votre nouveau roman, vous confiez avoir été frappé, enfant, à souiller, à gangréner mon existence entière. Faut-il comprendre qu'il faut avoir été aimé pour savoir aimer ?
Oui, c'est un truisme, mais c'est vrai. Les enfants aimés par leurs parents ont beaucoup de chances d'avoir des vies plus intéressantes, plus équilibrées. Car avoir une vie équilibrée, c'est quelque chose d'intéressant. Faire le malin en pensant que les déséquilibres, les dysfonctionnements vous offrent un rapport à la vie plus riche est une aberration. la capacité de se procurer à soi-même du calme, de la tranquillité, de la sérénité et du bien-être, sans besoin de passer par un yogi pour ce genre de choses, est quelque chose de fondamental. Et finalement, c'est rater aussi une dimension de la vie que de ne pas être capable d'être heureux avec soi et d'avoir toujours comme grille de lecture, comme pulsion de lecture, l'enfance. Quand vous avez une enfance désagréable, finalement, celle-ci vous empêche d'avoir la vie que vous auriez pu être avec un peu plus d'amour. C'est-à-dire qu'un être humain accompli, d'abord un être humain en paix avec lui-même. Tout le reste a peu d'importance, en fait. Je préférerais avoir peut-être écrit moins de livres et avoir une enfance plus agréable. Et peut-être que j'aurais écrit des livres bien meilleurs si mon enfance avait été plus paisible. Je crois que venir sur Terre pour...
Donc les chants désespérés ne sont pas forcément les chants les plus beaux.
Non, je crois pas. Je crois que réitérer son enfance toute sa vie est une véritable malédiction et que pour pouvoir oublier l'enfant qu'on était, il faut avoir été en mesure d'avoir cette énergie d'amour qui, pour la vie, nous sert autant qu'une gourde dans le désert. Lorsque vous n'avez pas reçu d'amour mais simplement des coups, alors vous essayez toute votre vie de chercher cette eau, cette source vitale dans des endroits où elle ne se trouve jamais.
C'est donc le manque absolu d'amour qui a fait de vous un être auto-centré.
Alors, je suis auto-centré, mais pas narcissique. C'est-à-dire, les enfants qui ont eu des enfances comme la mienne, par réflexe, sont souvent égocentrés ou auto-centrés, c'est la vérité.
Obsessif ?
Oui, parce qu'ils ont été défaits de tout. On leur a tout enlevé. On les a, d'une certaine manière, atrophiés, atteints dans leur chair. Et par conséquent, ils ne peuvent plus jamais s'estimer. C'est-à-dire que l'estime de soi est nulle jusqu'à la fin des temps. Ça ne changera jamais. En revanche, pour contrebalancer cette estime de soi rabaissée ou anéantie, il y a un moyen qui existe, c'est de compenser ça par l'ego. Par l'ego, c'est-à-dire faire une œuvre, essayer de faire l'intéressant ou le malin, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un déséquilibre. C'est-à-dire que les gens qui s'estiment n'ont pas besoin de parler beaucoup, n'ont pas besoin de marcher sur les mains, n'ont pas besoin d'escalader la Tour Eiffel ou d'écrire des livres de 1000 pages. Ils ont simplement besoin d'être ce qu'ils sont. Les gens qui ont eu ce genre d'enfance essayent toujours d'être un peu plus que ce qu'ils ont été. Et donc, cela peut conduire à des outrances, à des exagérations, à des excès, parfois regrettables, mais qui sont consubstantiels de leur être et qui, manifestement, est leur seul rapport au monde possible.
Et pour survivre, Yann Moix, il vous a donc fallu, enfant, trouver un père de substitution. Et vous n'avez pas choisi l'un des moindres, puisque entre l'âge de 11 et 14 ans, vous avez lu compulsivement tout Gide. Pourquoi André Gide ?
C'est celui qui m'a sauvé la vie. Je suis tombé sur une photo d'André Gide dans le Larousse 1974, et en voyant sa photo, je me suis dit, c'est lui que je veux être. Je veux être lui. Qu'est-ce qu'il était ? Il était écrivain, moi je veux être écrivain. Il est né en 1869.
Et pourquoi, en voyant sa photo ?
Je ne sais pas, il avait une photo, une photo où il était absorbé.
Physique terriblement rigide, austère, l'homme est chauve, porte beau certes, mais...
Oui, mais avec une sorte de concentration. La photo était une pose où il était concentré dans une sorte de flou noir et blanc, absorbé. Et je voulais être lui, c'est-à-dire que je voulais être né en 1869, je voulais mourir en 1951, je voulais avoir écrit Les nourritures terrestres, je voulais être lui. Et d'ailleurs, j'ai tellement essayé d'être lui... que je connais sa vie presque par cœur. Et
Franck Lestringue... Mieux, paraît-il, que son biographe,
oui,
d'ailleurs.
Oui, Franck Lestringue,
voilà,
un jour.
Voilà, son biographe officiel.
On discutait, il me dit, il arrête, on déjeunait, il me dit, il souffle comme ça, il t'en sais beaucoup plus que moi sur André Gide. Mais c'est normal, c'est-à-dire que lui, c'est le biographe d'André Gide. Moi, je suis André Gide. C'est moi, André Gide. Alors, je ne suis pas né en 1969, je suis hétérosexuel, je ne suis pas pédophile, mais je suis André Gide, en fait. Et si André Gide n'avait pas existé, j'existerais pas non plus à l'heure actuelle.
Alors, lequel de ces livres vous a le plus nourri ? Vous allez me dire l'œuvre entière ?
Tous. À 14 ans, j'avais lu 100% de son œuvre, mais même la correspondance avec Paul Claudel, sa correspondance avec Dorothy Bussy, avec Jacques Copeau. À 15-16 ans, j'étais un des plus grands spécialistes au monde d'André Gide.
Et pourtant, Yann Moix, cette fascination pour la prose de Gide, et puis ensuite pour celle de Charles Péguy, vous a pas détourné de Mathsup que vous avez préparé au début des années 90. Pourquoi, avant d'écrire, avoir d'abord plongé dans des études de mathématiques supérieures, puisque vous écrivez à la page 68 de votre nouveau roman, Rompre, la prétention qu'ont les mathématiques à dire le monde est risible.
Les mathématiques sont d'une certaine manière risibles. C'est-à-dire qu'il y a un grand pouvoir poétique dans les mathématiques. J'adore les mathématiques, je respecte les mathématiques, elles sont envoûtantes, fascinantes, belles, poétique et parfois extraordinaire. Simplement, il y a chez elle quelque chose qui m'a toujours paru désagréable, c'est qu'elle s'arroge le monopole de dire le monde. On pense qu'une équation peut résoudre des mystères, par exemple une pierre tombe, alors on va utiliser la loi de la gravitation universelle, il y a une équation qui va avec ça, et on va considérer que les mathématiques disent le monde. Mais je trouve que c'est complètement sectaire. Il y a une autre chose qui dit le monde, c'est le mot. Et je pense même que lorsque le monde n'est pas dit, il n'existe pas. Si le mot caillou n'existait pas, alors le caillou n'existerait plus. Si le mot chaise n'existe pas, alors on ne peut plus s'asseoir. Et je crois que lorsqu'un mot disparaît, la réalité qu'il disait disparaît également. Par exemple, le mot orne. Orne est un mot fabuleux qui signifiait, il y a encore 100 ans, des arbres alignés sur le bord d'une route. Comme le mot orne a disparu, eh bien, l'alignement des arbres sur le bord de la route n'existe plus. On ne voit plus que quelques arbres.
À cause de la disparition du mot.
Oui, bien sûr. Et je crois que le monde n'est pas un réceptacle bête et méchant qui est là pour accueillir les lois de la physique, mais il est aussi une manière d'exister par rapport aux mots qui sont prononcés. Et c'est pourquoi un Allemand, un Portugais, un Norvégien et un Français ne peuvent pas vivre dans le même monde parce que les mots qu'ils disent ne font pas se déployer la même réalité. Comme disait Heidegger, le mot donne l'être. Et un monde, l'Allemagne, où le soleil est féminin et la lune masculin, ne peut pas être le même qu'un monde français où la lune est féminin et le soleil est masculin. Ils n'ont pas la même vision du monde parce qu'ils ne le disent pas de la même manière.
Donc, seule la parole, c'est dévoiler les mystères du monde. C'est pour ça que vous êtes écrivain ?
Et absolument. J'ai compris très vite, quand j'étais en maths sup justement, qu'il y avait une revanche à prendre de la parole, du mot, de la littérature sur les mathématiques. Et que les mathématiques, d'une certaine manière, il y en avait assez. J'en ai eu assez. Alors, j'ai un respect infini pour les mathématiciens qui font un travail magnifique. Malheureusement, on n'y a pas accès parce que des gens comme Cédric Villani ou autres sont à des tels degrés d'abstraction et de beauté, mais auxquels finalement une cinquantaine de personnes...
Ils nous emmènent sur Mars,
oui,
tout
mais
de même.
Eux seuls y ont accès. La beauté de la littérature, c'est précisément qu'elle peut aller très 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 loin, mais que tout le monde y a accès.
Europe. La pause sera très courte. On retrouve tout de suite Yann Wax.
15h30, on retrouve Isabelle Morizet et l'écrivain Yann Wax pour la suite de « Il n'y a pas qu'une vie dans la vie ».
Un écrivain est celui qui sait faire d'une rupture un chef-d'œuvre de douleur mis en mots. C'est le cas de Yann Wax qui fait paraître chez Grasset « Rompre ». Yann Wax, dans « Naissance », roman sorti en 2013, vous écriviez « Naître, c'est se faire des ennemis ». Très vite, je m'en fis deux pour la vie. Le premier était une femme intitulée « Maman », le second un homme appelé « Papa ». Alors effectivement, on l'a rappelé à l'instant, vous étiez un enfant martyr roué de coups. Pourtant, je voudrais savoir si aujourd'hui, ces parents indignes se sont emparés d'une manière ou d'une autre de votre renommée. Est-ce qu'ils jouissent d'une façon ou d'une autre, malgré l'opprobre, de la célébrité de leur fils ? Est-ce qu'ils ne se sentent pas comptables de votre gloire ?
Je n'en sais absolument rien. Ce sont des êtres humains que je ne fréquente pas et qui ne sont pas dans la ligne de mes intérêts, de mes obsessions, ni de mon avenir.
Donc, vous ne fréquentez plus depuis combien de temps ?
Depuis presque toujours.
Mais vous avez pris la fuite, c'est ça, à l'âge de 18 ans,
non, mais
20 ans
mais en fait, dès le départ. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment d'habiter chez des inconnus, des ennemis, en fait. Que j'étais, en fait, d'une certaine manière, un otage. Un otage d'une sorte de prison avec des geôliers ou des geôliers, je ne sais jamais su comment on disait, des geôliers avec qui je n'avais rien à voir. Des geôliers qui vous nourrissent, hein, comme parfois les otages sont nourris. Mais c'est tout. J'ai toujours considéré que j'étais en prison. Donc, dès que j'ai pu, je me suis fait la malle.
Alors, Yann Wax, vous avez 50 ans, vous n'êtes pas père, vous ne voulez pas l'être. Peut-être les femmes, d'ailleurs, vous quittent-elles pour cette raison. Et sans avouer la terreur d'enfanter à votre tour, d'accoucher donc d'un être humain, vous lâchez seulement, quand on est père, il faut recommencer tous les jours. On est tous les jours un père à recommencer. Mais avec la littérature, c'est pareil. Quand on est écrivain, il faut recommencer tous les jours. Et avec la vie, c'est pareil.
Oui, alors d'abord, j'ai changé. Je pense que je suis capable d'être père maintenant. C'est la grande nouveauté. J'en suis convaincu, précisément parce que 50 ans, c'est quand même très jeune. On peut encore en avoir, des enfants. Et donc, vous voyez, j'ai changé. J'avais dû peut-être vous dire ça il y a 2-3 ans ou 4 ans. Mais tout évolue. Je pense qu'il y a maintenant un aspect de ma vie qui est en train de se modifier, où le fait d'accueillir quelqu'un d'autre et de bien l'accueillir est tout à fait envisageable.
Bon, on se réjouit. Alors Yann Moix, face à l'invasion aujourd'hui des images sur nos écrans, la littérature est devenue clandestine. Alors, est-ce que le pouvoir clandestin de la littérature aujourd'hui peut impacter nos sociétés comme à l'époque de votre maître André Rigide ?
Oui, je crois beaucoup à la puissance de la littérature dans un monde où elle est méprisée de plus en plus. Il y a effectivement un côté de plus en plus subversif dans les romans. Ils ont un rôle à jouer qui est beaucoup plus clandestin. Ils ne sont plus du tout en concurrence avec l'image comme c'était le cas au XXe siècle. Ils ont perdu le combat. Le livre a perdu le combat. Le mot, la phrase, la nuance ont perdu le combat.
Face à l'image.
Perdu, c'est terminé, c'est fini. Et c'est précisément pour cela que lorsqu'on est dans des états de crise grave, on se précipite sur les livres. Quand les gens ne savent plus quoi penser, ni du monde, ni d'eux-mêmes, ils se précipitent dans les librairies, comme des naufragés, en disant ce qu'il y a une bouée, et les bouées, ce sont les livres. Et lorsqu'un homme politique n'est plus audible, il se précipite sur la plume pour écrire des lettres aux Français. Les hommes politiques en perdition écrivent leurs mémoires et finalement l'écrit a repris, de par sa manière d'être méprisé et de sa manière d'être ostracisé et presque même méprisé, il a repris une importance considérable.
Mais
par
vous,
sa clandestinité même.
Vous, qu'attendez-vous, qu'espérez-vous quand vous écrivez ?
J'aspire d'abord à me sentir bien dans ma peau, c'est-à-dire qu'au moment où j'écris, je me trouve grand, beau, fort et intelligent. Et ça, ça n'a pas de prix. C'est le moment où je me sens le mieux. Donc dès que je termine un livre, je pense obsessionnellement à celui que je vais écrire juste après. C'est un peu comme quand je nage. Nager le crawl et écrire sont les deux moments pendant lesquels je me sens flotter. Flotter dans une sorte de bonheur. Voilà, tout ce qui est en dehors est plus compliqué.
Yann Moix, quand Charles Péguy, votre autre maître en littérature, a publié en 1897 son premier livre sur Jeanne d'Arc, tiré à 1000 exemplaires, il en a vendu un seul. Quel vertige ça provoque chez vous, ça ?
Alors, ça provoque un vertige étonnant dans la mesure où le seul exemplaire qui a été vendu dans une librairie, Passage Choiseul. C'est précisément là où Louis-Ferdinand Céline, quelques années plus tard, allait habiter. Sachant que Louis-Ferdinand Céline avait lu Péguy. Donc il y a une sorte là de passation de pouvoir qui est très intéressante. Et alors, bien sûr, Péguy est mon maître, Gide son maître, ils sont tous les deux mes maîtres, Gide est mon maître, mais il y a quand même quelque chose qu'il faudrait se demander. Est-ce que ces maîtres-là aimeraient, s'ils revenaient, qu'on les ait pour maîtres ? Est-ce que ça ferait plaisir à André Gide que je l'aime ? J'en suis pas sûr. Est-ce que Péguy m'aimerait bien ? On ne peut pas résoudre cette équation. Et ce qui est terrible, c'est que tout le monde s'arroge le droit de dire « je suis péguiste », Edoui Plenel et Finkielkraut, moi par exemple, le président Macron, on dit toujours « on aime Péguy ». Mais il y en a bien un parmi ceux-là que Péguy aurait détesté.
Voilà.
Ce n'est pas possible. Donc il y a quand même quelque chose qui est désagréable dans l'admiration qu'on voue aux disparus, c'est qu'on part du principe que nous sommes leurs amis. Mais on n'a aucune raison d'imaginer que la réciproque est vraie.
Lequel de vos prix a calmé le mieux vos angoisses ? Le Goncourt du premier roman ? Le prix Renaudot ?
Non, le Goncourt du premier roman, non, parce qu'il y avait marqué « du premier roman » derrière.
Donc c'était affreusement réducteur.
Non. Oui, un peu réducteur. Un roman est un roman. Peu importe savoir si c'est le 14e,
bien
le 3e.
Sûr, bien sûr.
Le Renaudot m'a fait beaucoup de bien, puisque plus jamais on m'a... Avant, si vous voulez, c'est très bête, hein, les prix, parce que ça... j'adore les prix littéraires comme ça, c'est magnifique, mais c'est très bête dans l'esprit des gens, c'est dès que vous avez un prix, ah ben ça y est, vous êtes écrivain. Moi, je savais que je l'étais avant d'avoir le prix Renaudot,
voilà,
mais plus jamais on
m'a embêté. Si vous n'en avez pas, vous ne l'êtes pas.
Oui, mais avant le prix Renaudot, on allait essayer de chipoter pour savoir si j'étais écrivain ou pas. Depuis le Renaudot, je suis écrivain pour tout le monde. Donc ça a simplifié énormément de choses.
Alors, l'excellent Patrick Besson dit que en fait, vos romans sont des tocs. Vous ne traitez pas d'un sujet, vous vous acharnez dessus. Mais tous les écrivains sont des êtres obsessifs.
Tous, oui. Sauf
vous, un peu plus que les autres encore.
Patrick Besson n'est peut-être pas assez pour devenir un grand écrivain. Il mériterait peut-être un peu plus d'être obsessif. J'ai très peu d'estime pour Patrick Besson, pour vous dire la vérité. Très peu. Mais je crois qu'un écrivain doit être obsessionnel, effectivement. Je crois qu'un écrivain doit habiter dans une sorte d'espace clos qui peut être son enfance ou un traumatisme, mais dans un pays un peu à part qui, loin d'être une géographie, serait plutôt une temporalité. C'est-à-dire qu'on peut être enfermé dans une époque et vouloir scruter cette époque à l'infini. Marcel Proust a scruté l'époque de son enfance et de ses jeunes années. Zola à scruter l'époque du Second Empire, par
exemple. Et le pays d'Yann-Wax, c'est ?
Ça serait plutôt, effectivement, l'enfance. Ça serait, effectivement, une espèce de contrée dans laquelle, morbidement, j'entends évoluer jusqu'à la fin, mais dans laquelle on peut encore faire des découvertes.
On en revient au martyr.
Oui, mais dans laquelle on peut encore faire des découvertes. C'est-à-dire que je disais à des amis avec qui j'étais au collège et au lycée récemment que si moi, je ne faisais pas le travail de continuer à défricher mon année 1982, personne d'autre ne le ferait.
On retrouve tout de suite Yann-Wax.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Se poursuit donc avec Yann-Wax. Depuis 15h, Isabelle Morizet retrace son parcours.
Rompre vient de paraître chez Grasset. Yann-Wax est son auteur. Il est mon invité. Cher Yann-Wax, il paraît que vous avez relu tous vos livres au moins une fois. Non, verdict.
Je les relis dès que je les reçois parce que je suis obsessionnel des coquilles.
Et vous
donc,
en trouvez toujours ?
Toujours.
Toujours ?
Toujours. Mais toujours, toujours, toujours.
Et alors, que dites-vous à votre éditeur ?
C'est un sujet qui me... Alors, il y a plus grave sur Terre que les coquilles, ça c'est certain. Mais c'est quelque chose qui me fait à chaque fois beaucoup de mal. Et dès que le livre est là, je ne le lis pas en disant « Ouh là là, qu'est-ce que c'est génial !» Non, non, je cherche et je tourne les pages avec le cœur qui bat. Chaque page tournée où il n'y a pas de coquille, je dis « Ouf, c'est bon !» Et hop, bing, la page d'après, il y a une coquille. C'est quelque chose de terrible. Vous pouvez avoir un correcteur, deux correcteurs, trois correcteurs, il y a toujours des coquilles qui passent entre les mailles du filet. C'est
alors,
démoralisant.
Oublions les coquilles et parlons plutôt de style. Paul Morand, par exemple, et André Gide avaient du style. On ne parle plus du style d'un écrivain aujourd'hui comme si comptait seul le matériau de l'histoire. Votre style, à vous, c'est la ferveur furieuse qui donne parfois à votre nouveau roman, baptisé Rompre, des allures de longs poèmes en prose, plein d'une colère désespérée. Vous mourrez en colère, Yann-Wax ?
Non, je suis pas tellement en colère.
Vous trouvez ne pas l'être
ça ? Non. Vous savez, je nage tous les jours une heure, je fais une heure de guitare.
Oui, mais avant et après ?
Non, mais je joue la guitare, j'écris. Je suis assez calme, en fait, dans la vie.
Vous êtes assez calme.
Ouais.
Bon, alors, vous dites, je ne connais pas mes lecteurs. Les salons du livre, je n'y vais jamais. J'ai l'impression d'être une prostituée dans une vitrine à Amsterdam. Donc, le service après-vente de la littérature... Ça vous semble assez ignoble, c'est ça ?
Oui, c'est une escroquerie et c'est quelque chose d'obscène. Les salons du livre, par exemple, me semblent absolument atroces. Chaque écrivain, par définition, est persuadé d'être le meilleur de sa génération. Chaque écrivain pense être génial et que les autres ne passeront pas à la postérité. Chaque écrivain veut la mort de tous les autres écrivains. Donc, vous avez dans les salons du livre que des gens qui pensent, chacun dans leur coin, qu'ils sont le seul et le meilleur. C'est épouvantable. Épouvantable. Et donc, comme j'ai compris que les autres pensaient d'eux-mêmes ce que je pensais moi-même de moi, je préfère ne pas y aller.
Mais puis-je demander à un écrivain si la littérature est un art supérieur à la musique et à la peinture ? Parce que Mozart et Ravel auraient sans doute dit non à cette question. Vermeer et Picasso auraient sans doute dit non également.
J'aime pas hiérarchiser les arts. Ils sont tous indispensables et s'il en manquait un, on se suiciderait. Vous enlevez le cinéma, la vie est horrible. Vous enlevez la peinture, la vie est invivable. Vous enlevez la littérature, j'ose même pas y penser. Et la musique.
Et pourtant, le plus souvent, à la fin d'une vie, un artiste se penche plutôt sur des pages blanches que devant une toile, s'il est peintre, ou pour justement comme laisser une œuvre testamentaire et verser un peu voilà, de son cœur, de son âme. La littérature, c'est toujours testamentaire. Est-ce que ça l'est plus que la musique ou que la peinture ?
Peut-être qu'on pourrait éventuellement, en chipotant, trouver que la littérature est un petit peu plus cérébrale que les autres arts. Mais encore, c'est pas dit... Il y a de la musique très cérébrale. Ce qui compte, c'est l'émotion. Je pense que chaque artiste a trouvé un moyen d'émouvoir et que ce moyen, de manière universelle, en fouillant un peu les fondements de la nature humaine, et que chacun a obéi à sa pente naturelle sans tricher. Et qu'une fois qu'on a choisi son art, on peut aussi considérer que c'est l'art qui est venu vous choisir. Moi, j'ai toujours considéré qu'un guitariste ou un batteur, l'instrument l'avait autant choisi que lui l'avait choisi l'instrument. C'est une rencontre. Je crois que d'abord, il faut choisir son art ou être choisi par lui. Et une fois qu'on est dans l'art choisi, il faut chercher son style. Et les deux se font, à mon avis, naturellement sans tricher. Alors, ça peut prendre des années et des années et des années pour trouver
vous,
sa voie.
Mais pour vous, ça a pris combien de temps ? Vous l'avez rencontré vite ?
Oui,
le style qui allait être le vôtre
est arrivé très vite. Et je pense que j'ai trouvé mon style pour la première fois de ma vie dans ce petit livre qui s'appelle Rompre. Car j'avais toujours pensé que les phrases les plus simples étaient une forme peut-être d'échec. Et là, dans un style dépouillé, totalement simple, je m'aperçois de deux choses. D'abord, l'effort pour écrire étant nul. Il n'y a pas eu d'effort. Je m'aperçois que le niveau de vérité est absolu. Et la deuxième chose, c'est que je me suis aperçu que ce n'est pas parce que j'avais la sensation d'écrire très 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 simplement que c'était si simple que ça. Donc, je crois que ma véritable nature est d'écrire comme d'en rompre. Et c'est la raison pour laquelle tous mes livres à partir de maintenant auront plus ou moins ce style très épuré, classique, et j'ose dire, avec tout le respect que j'ai pour sa mémoire, Gidien.
Je tiens le livre entre mes mains. Et par exemple, je tombe sur ces deux phrases. Quand vous convoquez les souvenirs des amours passés, vous écrivez « Je me frotte à des instants morts, je me repais de soleil décédé ». Donc ça vous va quand je vous dis que ce livre est un long et tragique poème en prose ?
Oui, c'est un poème en prose. C'est vrai que c'est un beau compliment, parce que la poésie, c'est pas simplement des vers. La poésie, c'est une manière... Poésie, en grec, ça veut dire faire advenir quelque chose qui n'était pas là juste avant. Un maçon qui construit un mur, c'est un poète poésiste, il a construit quelque chose qui n'était pas là avant qu'il soit... Un menuisier qui fait une table. La table n'était pas avant, elle a lié. Et donc, dans un roman, si vous arrivez sur un sujet pourtant éculé à dire des choses qui n'avaient pas été dites avant, ou mettre des mots qui n'avaient pas été inventés avant pour le dire, alors vous faites œuvre de poésie.
On retrouve tout de suite Yann Moix.
Une heure d'échange, de réflexion avec Isabelle Morizet et son invité, l'écrivain Yann Moix, invité cet après-midi sur Europe 1, à l'occasion de son nouveau roman « Rompre » paru chez Grasset et qui dresse une topographie de la rupture amoureuse dans un dialogue imaginaire. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, suite et fin.
Yann Moix, où en est-il le montage des 200 heures de rush du documentaire que vous avez tourné il y a plus de 6 ans dans le pays le plus mystérieux de la planète, la Corée du Nord ?
Eh bien, juste après votre émission, je retourne en salle de montage pour fêter ma 7e année de montage sur ce film, qui a épuisé pas mal de monteurs déjà, et des producteurs aussi, mais qui est en bonne voie.
Ah vraiment ? On le verra un jour ?
Je n'ai jamais... arrêter quoi que ce soit en cours de route. Ça ne m'est jamais arrivé. Les choses peuvent être longues, mais ça ne m'est jamais arrivé.
Vous avez jeté votre dévolu sur la Corée parce que vous veniez de rompre avec une jeune Coréenne ?
Oui, c'est possible.
J'imagine ça
aussi. Oui. Quand je romps,
est-ce la vérité ?
Quand je romps, en général, c'est avec une femme. Et en général, cette femme, souvent, est asiatique. Et souvent, cette femme asiatique est coréenne. Et souvent, cette femme coréenne est adoptée. C'est vrai que j'ai remarqué dans ma vie que je sortais souvent avec des femmes asiatiques adoptées parce qu'elles étaient elles-mêmes peut-être dans une situation...
Adoptées, dites-vous.
Souvent, j'ai remarqué ça. Et c'est les hasards de la vie. Je ne cherche pas avec un radar. Vous voyez, il n'y a pas un radar. S'il vous plaît, les Coréennes adoptées, appelez-moi. Non, c'est les hasards de la vie, les rencontres de la vie. Et je m'aperçois qu'il y a une résonance peut-être entre mon enfance et la leur.
Vous auriez aimé, enfant, être adopté ?
Moi, c'était mon rêve.
Alors, pour fuir vos géniteurs ?
Bien sûr. Et mon rêve, finalement, je peux le voir chez certaines femmes qui ont été abandonnées en Corée, et je m'aperçois que ça laisse quand même des traces et des traumatismes absolument terribles. Et je crois qu'il y a un terrain d'entente sur le fait que les enfants ont été quand même des enfances volées. Des bébés qu'on a mis dans des boîtes aux lettres, à l'abandon, dans des orphelinats coréens, ou un type qui a été abandonné tout en restant chez lui. C'est vrai que ça crée des résonances... évidente.
Alors parlons justement de la Corée. Pour un occidental, marcher dans une rue de Corée du Nord, c'est être encadré à chaque pas par deux guides imposés par le gouvernement. Donc, que filme-t-on dans ce cas-là, Yann Moix ?
On filme les gens qui vous expliquent pourquoi il ne faut pas filmer.
Et ça dit beaucoup.
Mais oui, beaucoup de journalistes soit font les malins en essayant de faire des images cachées, des images volées, se plaignent, etc. Moi, je n'ai jamais vu où était le problème. Qu'est-ce qu'on filme en Corée du Nord ? On filme des gens en train de nous parler de leur pays.
Mais alors s'il y a 200 heures de rush, c'est-à-dire ils vous ont quand même confié pas mal de choses.
Ah
donc.
Non, mais alors les 200 heures, c'est sur Corée du Sud et Corée du Nord. C'est pas que la Corée du Nord. Il y a une partie sud et une partie nord. Et je fais deux films. Je fais un autre film avec Gérard Depardieu à Pyongyang.
Alors justement, là, l'aventure, elle devient encore plus improbable et romanesque. Il paraît que sans préméditation, donc vous avez emmené dans vos bagages l'ogre le plus cultivé, le plus fin, le plus intelligent du cinéma français, Depardieu. Et je dis sans préméditation parce qu'il faut absolument que vous nous racontiez comment les choses se sont déclenchées.
Je sortais de la délégation nord-coréenne à Paris et j'avais un rendez-vous avec Gérard Depardieu pour lui proposer de faire un film qui n'avait rien à voir avec la Corée. Et en arrivant chez lui, mon cerveau s'est dit, tiens, Gérard... aime bien voyager dans des pays parfois difficiles d'accès et des pays même, on peut le dire, qui ne sont pas les pays les plus démocratiques de la planète, au sens où on l'entend, évidemment. Je dis à Gérard, est-ce que ça te dirait de venir avec moi à Pyongyang ? Il a ouvert son agenda, il m'a dit, c'est quand ? Je dis, le 5 septembre. Il a noté la date et il est venu. Et c'était deux mois ou trois mois avant.
Le 5 septembre, à l'aéroport, vous voyez apparaître Depardieu. Vous n'y croyez pas ?
Non, mais en même temps, il m'avait appelé tout l'été pour connaître exactement les horaires, quelle compagnie on prenait, quelle place il aurait dans l'avion, etc. Que je me suis dit, bon, ça sent quand même bon, cette histoire. Et donc, on a fait le voyage ensemble et on a passé une semaine ensemble à Pyongyang.
Alors, concrètement, Gérard Depardieu en Corée du Nord, j'imagine que ça vaut tous les films de science-fiction.
Bon, c'est pas un documentaire au sens strict, c'est pas une fiction non plus, mais c'est vrai qu'il a réussi d'une certaine manière à modifier les comportements à lui seul. C'est-à-dire qu'il a, je l'ai vu fissurer un peu le logiciel nord-coréen, et des choses qui ne se font pas là-bas, lui il les faisait, en plus il les faisait au carré et au cube. C'est-à-dire qu'il y a toute une sorte de, une série de codes à respecter, d'attitudes à avoir, et il les a jamais eues ces attitudes, il a respecté aucun code, aucune règle, aucune loi, il a fait ce que bon lui semblait. Et les guides se sont pliés à ces desiderata.
Si, donc il exemple, a fait disais... comme vous dans votre vie d'écrivain.
Oui, mais il l'a fait en Corée du Nord. Si je disais, Monsieur Jong, est-ce que je peux filmer ce qu'on voit là ? Monsieur Jong me disait, non, c'est interdit. Gérard disait, mais moi je l'y autorise. Et le guide répondait, d'accord, Monsieur Gérard.
À aucun moment il n'a eu peur.
D'accord, Monsieur Gérard. Ah non, Gérard il a peur.
Il ne connaît pas.
Non, il connaît. Enfin, en tout cas, pas celle-là. Ah non, je pense que Gérard n'a peur que d'une chose, c'est de lui-même.
On peut espérer le voir quand, ce film, Yann Moix ?
Je pars...
Ces films ?
Alors, le premier, Coréa, qui va être un long film, je suis toujours en montage et je pense que au printemps, il sera terminé. Et celui avec Gérard, je retourne à Pyongyang dans 15 jours pour faire la deuxième partie du tournage.
Mais ce que vous nous confiez là, finalement, ne signifie-t-il pas que la littérature ne vous suffirait pas ?
Mais je vais répondre par une sorte de pirouette. Vous savez, je tiens mon journal intime tous les jours. C'est un journal qui fait plusieurs dizaines de millions de signes, dont le premier tome va sortir en 2020, aux éditions Bouquin.
Ah bon, vous ne ferez pas comme Paul Morand, qui avait exigé que le journal intime, donc le journal inutile, en deux tomes, de chacun plus de 1000 pages, sorte au début du troisième millénaire.
Non,
nous, on va pouvoir plonger dedans dès 2020.
De manière contemporaine, et parfois le fait de faire des choses dans la vie, me permet aussi de nourrir les pages de mon journal intime. Et le fait de le tenir me fait faire des choses que je ne ferais peut-être pas si je ne le tenais pas.
En tout cas, vous chérissez la littérature, Yann Moix, comme jamais vous n'avez chéri aucune femme. Mais ça, c'est déjà de la littérature. Rompre vient de paraître chez Grasset. Il va falloir une certaine audace pour écrire désormais sur la rupture. Merci infiniment,
Merci.
Yann Moix.